conversation avec Hanan Arat. Un rendez-vous hebdomadaire avec des Marocains du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle conversation. Aujourd'hui, escale en Belgique, le plat pays, comme l'appelait Jacques Brel, est très présent dans la programmation du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger lors du Salon du Livre à Rabat. D'abord parce que l'on vient de commémorer les 60 ans des accords belgo-marocains et puis aussi parce qu'il y a, et surtout aussi, une production culturelle et littéraire très riche qui nous vient de Belgique. Parmi ces publications, le livre « J'ai deux amours », un ouvrage collectif réunissant plusieurs textes sous la coordination de Fatiha Saidi. 11 auteurs y ont contribué, dont Saïd Benali. Lui et Fatiha Saidi sont donc mes deux invités aujourd'hui. Fatiha Saidi, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes née à Oran, dans une famille originaire du Rif. À l'âge de 5 ans, vous devenez bruxelloise. Vous faites des études de sciences politiques et de psychopédagogie. Et puis, vous vous engagez dans une carrière politique. Vous aurez plusieurs mandats à différents niveaux de responsabilité. Vous serez notamment sénatrice. Vous exercez différentes responsabilités. Et puis, à un moment, vous vous mettez à écrire. Vous vous mettez à écrire beaucoup sur des sujets qui sont souvent liés à ce qui vous préoccupe, à savoir les droits humains. On aura l'occasion d'évoquer quelques-uns de vos textes en plus de cet ouvrage collectif donc, que vous avez dirigé. Merci beaucoup d'être avec nous.
Avec plaisir, merci à vous.
Saïd Benali, bonjour et bienvenue également.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Alors, vous aussi, vous êtes écrivain, vous êtes auteur, vous écrivez, vous publiez votre premier roman en 2017, ça s'appelle « Mes tendres derniers jours ». Vous écrivez aussi des nouvelles, un recueil de nouvelles viendra plus tard, et puis aussi des pièces de théâtre, vous êtes dramaturge, dont Don Jamel, qui raconte l'itinéraire d'un Don Juan, mais belge, bruxellois, ou Guantanamo sur un sujet plus sérieux, la radicalisation des jeunes. C'est aussi un thème qu'on aura l'occasion d'aborder. Donc merci à vous également d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui.
Avec plaisir.
Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, je vais commencer par vous, Fatiha Saidi, parce que vous avez coordonné cet ouvrage. Comment est née la genèse de ce projet? J'évoquais tout à l'heure l'anniversaire des 60 ans de coopération belgo-marocain, mais comment s'est fait le choix des auteurs et comment s'est mis en place ce projet ?
D'abord, je dois à la vérité de dire que Saïd m'a aussi grandement aidé à coordonner cet ouvrage, qui a commencé par une idée qui avait germé dans mon esprit, en me disant voilà, nous célébrons les 60 ans de l'immigration marocaine en 2024, cette année va bientôt s'écouler, qu'est-ce qu'on retiendra de cette année ? Et il m'avait semblé essentiel de réunir, dans une démarche inédite, parce que c'est vraiment la première fois, de réunir des auteurs et des autrices belgo-marocaines qui allaient parler de leurs deux pays, le Maroc et la Belgique. Alors j'ai écrit un petit projet. J'en ai parlé avec Saïd, on nous sommes rencontrés, il trouvait que l'idée était excellente. J'en ai ensuite parlé également à Monsieur Liesami, qui est président du CCME et qui a aussi favorablement accueilli cette initiative. Et donc nous nous sommes mis autour d'une table. Moi, j'avais déjà lancé quelques noms de personnes que je connaissais. Saïd en a rajouté quelques-unes. Et nous avons contacté ces personnes. Toutes ont répondu présentes. Et c'est comme ça qu'est né le livre « J'ai deux amours », avec deux consignes qui n'étaient vraiment pas du tout infranchissables. La première, c'était de parler obligatoirement des deux pays. Et la deuxième, c'était une contrainte d'ordre purement technique, à savoir le nombre de signes.
La durée, enfin la longueur du texte. Saïd Benali, comment vous avez été embarqué dans cette aventure? Vous avez commis un texte qui parle d'une situation que beaucoup d'enfants de l'immigration ont vécue, c'est le voyage vers les grandes vacances, depuis les préparatifs jusqu'aux adieux pour revenir en Belgique, un texte très émouvant. Donc comment vous vous êtes retrouvé embarqué dans cette aventure et pourquoi vous avez accepté d'y contribuer? Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le fait que ces enfants de l'immigration aient à écrire sur leurs deux pays, comme vient de le dire Fatiha Saïdi?
Alors, comment je me suis retrouvé dans cette aventure, c'est que Fatiha et moi, on collaborait déjà sur un autre projet. Donc, c'était aussi un roman épistolaire où on a travaillé à deux pendant quelques mois. Et puis, elle vient avec cette idée-là. Et il faut savoir que Fatiha est une locomotive, et donc je suis monté dans le train. Et comme il s'agissait justement de raconter des histoires autour d'un voyage entre le Maroc et la Belgique, et donc j'ai tout de suite adhéré à l'idée. Et c'était très important pour moi aussi de marquer le coup, non seulement pour les 60 ans de l'immigration marocaine en Belgique, mais aussi par le fait que je pense qu'on a besoin d'écrire ces aventures, ces histoires qui font partie de l'histoire aussi, de la grande histoire.
Et pourquoi ce titre « J'ai deux amours » ? Je crois qu'il fait référence à une chanson de Joséphine Baker, mais est-ce que ça représente pour vous le fait de réconcilier ces deux pays ? C'est dans un effort de réconciliation ?
C'est en tout cas dans un souci de quête, parce que deux amours, ben c'est aussi deux quêtes, c'est aussi deux territoires, c'est aussi deux espaces que l'on est amené à rencontrer dans des allers-retours permanents. Et J'ai deux amours fait aussi référence à la nouvelle que j'ai écrite qui s'appelle Au secours Joséphine. Et J'ai deux amours, c'est bien évidemment la chanson de Joséphine Baker, pour qui personnellement j'ai une immense admiration, pour l'artiste d'abord, mais aussi pour la femme militante qu'elle a été, parce que je pense que cette facette de femme militante a été plutôt occultée par le côté artiste. Et j'avais lu des livres sur Joséphine Baker, et j'avais aussi appris que Joséphine Baker a vécu un an au Maroc, malheureusement
malade. Pendant la Deuxième Guerre, je crois.
Oui, absolument. Non, pas pendant la Deuxième Guerre. C'était vers la fin des années 50. Et elle est arrivée à Casablanca, elle a été hospitalisée, elle a été prise sous l'aile de feu le roi Mohamed V. Et pour moi, toutes ces choses étaient vraiment absolument ces choses éparses que j'ai voulu rassembler. C'est aussi la manière dont les pays ont accueilli Joséphine Baker, à savoir pas bien, ni dans l'un ni dans l'autre. Elle a vécu du racisme extraordinaire aux États-Unis. Elle a rencontré aussi énormément de problèmes en France. Et malgré ça, elle chantait ses deux amours, c'est-à-dire la France et les États-Unis. Elle dit Paris, mais c'est donc la France et les États-Unis. Et ça me semblait vraiment très très beau en tant que symbole, parce que cela veut dire que même si c'est difficile, il y a toujours de l'amour, et que même si cet amour, sous cet amour se cache beaucoup de souffrance parfois.
Alors difficile, c'est le cas de le dire, parce qu'en évoquant cette réconciliation, ou en tous les cas le fait d'écrire sur les deux pays, ça ne se fait pas toujours avec apaisement. Saïd Ben Ali, dans la préface que vous co-signez avec Fatiha Saïdi à cet ouvrage, vous dites que, bien sûr, dans ce recueil, il s'agit d'enfants belges, certes, mais qui, pour nombre d'entre eux, et je vous cite, « portent encore et toujours leur culture multiple avec, c'est selon, de la souffrance, du tiraillement, de l'épanouissement, de la sérénité. » Donc cette réconciliation, au fond, elle est loin d'être simple.
Personnellement, moi, je suis totalement réconcilié, mais je sais que c'est un travail de longue haleine, et c'est un travail qui demande beaucoup de curiosité, beaucoup de patience. Et je pense que les années, il n'y a que les années qui nous aident à nous réconcilier avec nos identités, puisqu'elles sont multiples. Et c'est vrai que je le vois aujourd'hui, au fait, si j'ai écrit cela, c'est par rapport à un constat. Les jeunes d'aujourd'hui à Bruxelles qui sont nés, qui sont troisième, quatrième génération, ils ont encore ce problème d'identité. Ils ne savent pas vraiment s'ils sont marocains ou belges. Alors c'est étonnant aujourd'hui, parce que moi je les considère comme enfants de Belgique, mais avec des origines marocaines, comme moi je l'ai été. Mais peut-être que moi j'ai eu plus de chance, puisque j'avais mon papa, l'Arahman, qui m'a toujours dit que voilà, tu es de là où tu vis. Et donc, peu importe dans quel pays tu vas, si tu t'y installes, ben tu deviens ce pays. Et que tu dois l'embrasser entièrement avec ses cultures. Donc voilà, c'est un cheminement, et c'est vrai qu'il y a énormément de souffrance pour certains. Et puis voilà, je pense qu'on arrive tout doucement à récolter les fruits des deux arbres qu'on a plantés, et alhamdoulilah.
Je vous poserai des questions à toutes deux tout à l'heure, peut-être sur la difficulté pour ceux d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, à se reconnaître pleinement de là où ils vivent, justement, contrairement à votre sentiment à vous, Saïd Ben Ali. Mais pour finir sur la présentation de l'ouvrage, pourquoi avoir choisi aussi de le faire préfacer, c'est une préface très consistante avec beaucoup d'analyse, par une sociologue, Nourian Ouali, qui donne en fait des clés d'analyse et des clés d'explication pour comprendre ces textes qui en fait sont très personnels. Il y a beaucoup... enfin, il y a des textes réels et il y a des textes fictionnels, mais les auteurs qui participent à cet ouvrage livrent des récits parfois intimes, et vous avez fait le choix d'une préface par une sociologue.
C'était vraiment un choix délibéré, et dès le début, pour nous, le choix de Nouria Wally s'imposait. Alors pourquoi le choix de Nouria Wally ? Parce qu'elle est sociologue, effectivement, parce qu'elle a travaillé sur les questions migratoires, et parce qu'elle est elle-même issue de l'immigration. Et donc pour nous, et c'est pas du tout dans un réflexe de communautarisme comme on aime tant le souligner aujourd'hui, ou d'exclusion de l'un ou l'autre, c'est vraiment dans le souci d'avoir une parole, et une parole clairement assise dans une réalité. Et Nouria, et le faire par une sociologue, c'était également, je vais pas dire que les textes étaient dépourvus de chair, loin de là, mais c'était donner aussi une armature plus académique à des textes qui sont des histoires de vie, qu'elles soient fictionnelles ou qu'elles soient autobiographiques, et c'était vraiment extrêmement important parce que, comme vous le soulignez très très justement, ça donne des clés d'analyse et ça donne des clés pour qui peuvent ouvrir vraiment ces textes sur d'autres dimensions.
Alors, le recueil donc vise à célébrer d'une certaine façon les deux pays. En fait, pourquoi, je vous pose la question comme elle me vient, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on est peut-être à la troisième, quatrième génération d'enfants d'immigrés, il y a encore de la difficulté à dire pleinement d'où l'on est, ou à expliquer de façon plus ou moins pacifiée la relation avec les deux pays? Voilà ce qu'écrit Nouria Wally dans cette préface. Elle dit « La mémoire et l'histoire sont des clés essentielles pour autoriser les plus jeunes à porter sans angoisse leurs magnifiques appartenances bigarrées et pour prévenir les effets délétères des errances identitaires qui ont parfois conduit à des issues tragiques. Et ce devoir de mémoire est l'occasion de produire des discours sur soi et de bousculer, voire de désavouer les narratifs dominants sur les réalités des migrants et leurs descendants. Aujourd'hui, est-ce que les discours narratifs dominants, pour reprendre ces termes, sur les descendants d'immigrés ont évolué ou pas ?
Moi, je pense que, par exemple, à l'école, on apprend très peu sur l'immigration marocaine. Quasiment pas. Moi, en tout cas, je ne me souviens pas que dans mon cursus, on ait abordé cette thématique. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on a parlé de nous, de nos parents. Pourquoi on se retrouvait beaucoup de Marocains en Belgique? Tu le découvres une fois que tu es adulte, une fois que tu es curieux et que tu vas chercher justement toi-même comment ça se fait qu'ils sont là, qu'est-ce qu'ils ont vécu pour arriver là, pourquoi ils ont quitté le Maroc. Donc tout ça, c'est des questions qui sont venues par après. Et donc ce genre de manuscrit, pour moi, pourrait servir justement à ça, à cette génération, pour leur dire, écoutez, il y a 60 ans, il y a 70 ans, il y a 80 ans, il y a eu, pourquoi vous êtes là ? Parce qu'il y a eu des personnes qui ont pris leur courage à deux mains, qui ont quitté leur terre, qui ont quitté leur famille pour venir et essayer de construire autre chose pour vous. Et c'était ça. Enfin, moi, ma peur, c'est qu'on oublie, en fait, ces gens-là. Donc, moi qui viens de perdre, par exemple, mon papa, avec qui j'étais très, très proche, je sais les sacrifices qu'il y a derrière. Et je sais, j'aurais été fier qu'il soit là avec moi au salon et qu'il voit qu'effectivement les Marocains, où qu'ils vivent ailleurs qu'au Maroc, sont fiers de leurs origines et font des choses pour le Maroc aussi. Donc c'était important pour moi, voilà, de poser cet acte-là. Je pense que voilà, qu'on le veuille ou non, c'est un acte politique aussi. Mm-hmm. C'est de dire à la Belgique, oui, on est belge, on construit en Belgique, nos parents ont construit beaucoup en Belgique, mais nous, en tant qu'enfants, on veut aussi construire au Maroc. On a les deux identités avec lesquelles on compose, qu'on le veuille ou non.
Donc il y a quelque part un désir de reconnaissance par rapport à cette parole absente, mm-hmm, dans les pays d'accueil, oui. Et puis peut-être aussi un devoir de réparation par rapport à cette mémoire des parents qui ont fait, je reprends votre terme, un sacrifice en allant dans d'autres pays. Mais on parle de l'absence de transmission par les pays d'accueil, mais il y a aussi un silence au sein des familles. Et il y a beaucoup de textes qui parlent justement d'une mémoire familiale qui finalement est tue et que ces enfants de l'immigration recomposent un peu par touche à partir de leurs souvenirs de vie. Visite dans la famille, à la place, dans l'été. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que cette mémoire de l'immigration, elle s'exprime aujourd'hui par les enfants parce qu'elle n'a pas pu être dite par les parents ? Et aussi, est-ce que ça change ? Est-ce que les enfants de l'immigration de la première génération, qui sont souvent eux-mêmes parents aujourd'hui, transmettent davantage.
Mais effectivement, il y a beaucoup de silence dans l'immigration. Et le très beau livre de Rachid Benzine vient très très bien l'illustrer avec le silence des pères. Je pense que quand on est dans une trajectoire migratoire et qu'on lit le livre de Benzine, on s'y retrouve, qui que l'on soit. C'est important, effectivement, de transmettre, mais ce n'est pas toujours évident pour nous non plus, en tant que parents, de transmettre. Parce que qu'est-ce que nous voulons transmettre ? Nos parents ne nous ont pas transmis beaucoup de choses, parce qu'il y avait aussi des souffrances. Et donc ces souffrances, moi je vous parle d'une famille rifaine qui avait tout son vécu en Algérie, avec une expulsion en 1975. On n'a pas parlé de l'expulsion de mes grands-parents. Pourquoi ? Parce que c'était trop douloureux, je pense, que pour être dit. Et donc, je pense que c'est surtout cet indicible sur lequel nous retournons, nous, et nous essayons de reconstituer finalement des petits puzzles. Et je pense que tout cela donne sens. Et c'était aussi ma volonté, ce livre. Je l'ai vraiment voulu multiple parce que j'aurais pu... comme le soulignait Younes Hajjaraï, j'aurais pu me mettre dans un coin de mon bureau et écrire ce livre toute seule, en disant voilà, l'immigration c'est ceci, c'est là. Non, je voulais justement que ce livre soit multiple pour aussi sortir de cette homogénéité dans laquelle on nous met. On parle très souvent de la femme immigrée, on parle de l'immigration, on parle de la communauté marocaine, comme si nous étions un gros bloc qui est tout à fait semblable. Non, nous sommes des milliers, des millions d'éclats dans ce bloc, et nous avons tous nos spécificités et nos différences. Et c'était important aussi que ce soit rappelé au travers de ce livre, où l'on retrouve bien évidemment 11 styles complètement différents, 5 femmes et 6 femmes et 6 hommes, parce que je compte aussi Nouria dans la préface, et je trouve que c'est ça qui donne de la chair et du corps à ces textes.
Et effectivement, ce sont des auteurs qui, vous l'avez dit, sont dans des styles différents, des récits différents, et ça permet de sortir peut-être de cette forme d'essentialisation qu'on
Absolument.
A de la communauté immigrée en retraçant des parcours spécifiques à chacun. Mais pour finir, continuer et finir sur la question de la transmission, ce silence des pères, pour paraphraser le titre du livre de notre ami Rachid Benzine, est-ce qu'il est comblé aujourd'hui par les parents ? Et je pense notamment à un texte dans l'ouvrage, c'est un texte de... Attendez, je ne veux pas écorcher le nom, c'est Ikram Mahfi.
De Ikram Mahfi.
Qui se termine par une lettre à ses propres fils.
Et voilà ce qu'elle leur dit. Et celui de Fatima Zibou également.
Également. Et celui-là m'a marqué parce qu'elle finit par cette lettre et voilà ce qu'elle leur dit. Si je prends part à l'écriture de ce récit collectif, c'est parce que j'espère secrètement qu'il vous permettra de vivre pleinement vos subjectivités. Mes tendres enfants, à l'aune des tragédies humaines que nous vivons présentement, nous ne pouvons plus nous permettre de laisser qui le souhaite sauvegarder notre mémoire. Aujourd'hui, nous sommes enfin nombreux à prendre conscience de l'importance de nous saisir de notre propre narratif, s'approprier son récit, s'en faire les sujets, c'est en rester les acteurs. Et donc, elle les encourage à aimer de façon égale Bruxelles et le Maroc. Elle leur dit, je veux m'assurer que vous fassiez notre bien-aimé Bruxelles sans jamais vous sentir honteux d'aimer tout autant Agadir et Cap de l'eau. Est-ce que vous diriez, Saïd Benhenni, que c'est cette génération-là qui, à un moment, s'est posé la question de l'appartenance parce qu'elle était prise en étau entre l'absence de mémoire familiale et un pays nourri de représentations sur la communauté immigrée, on l'évoquait tout à l'heure. C'est cette génération-là qui est en train d'opérer une forme de transformation qui peut mener à un apaisement identitaire, peut-être ?
Oui, tout à fait. Et pour revenir à ce que vous venez de lire, c'est que elle dit quelque chose de très juste, c'est la réappropriation de notre histoire. C'est vraiment nous qui allons raconter l'histoire de l'immigration telle qu'on l'a vécue de l'intérieur.
Donc c'est une question de pouvoir sur le récit.
Bien sûr, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et pour rejoindre justement le silence des pères, ils étaient très discrets, parce que je le disais justement hier ou avant-hier lors d'une table ronde, ils étaient très discrets, et puis surtout, ils n'étaient pas là pour raconter des histoires, ils étaient là pour bosser, ça s'arrêtait là. Pour eux, être en Belgique, c'était travailler et faire vivre leur famille, donc ils avaient, pour eux, c'était pas une question de, c'était pas une question intellectuelle, c'était une question de alimentaire. Donc ça s'arrêtait là, leur devoir, ils l'ont fait. Mais nous, qui avons eu la chance d'avoir étudié en Belgique ou en France ou ailleurs, et de se réapproprier pardon, l'histoire et enfin de leur poser les bonnes questions, parce qu'on dit toujours c'est qu'en fin de vie que les personnes commencent parfois à raconter des histoires qu'elles n'auraient jamais pu raconter à 40, 50, 60 ans. Et donc voilà, de tout ça, on voulait faire cette une matière qui est ce livre notamment. Et oui, c'était important pour nous de raconter et de dire à nos enfants, écoutez les enfants, voilà, une partie de votre histoire, et en espérant qu'eux aussi continuent à raconter leurs histoires et leur désir d'être autant au Maroc qu'ailleurs dans le monde.
Fatiha Saïdi, vous vouliez réagir ?
Je voudrais réagir en complétant ce que Saïd vient de dire, en disant également que nous sommes une ancienne génération. Autant Saïd que moi, nous sommes pratiquement première, puisque je suis arrivée à l'âge de 5 ans en Belgique. Ça va être deuxième génération. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que la manière de se raconter par nos jeunes de troisième génération, voire même de quatrième, comme on l'a souligné tout à l'heure, est totalement différente de la nôtre. Le discours est nettement plus décomplexé que le nôtre. Nous, on nous avait donné des injonctions, nos parents nous avaient donné des injonctions en disant « nous ne sommes pas chez nous ». Parce que nous étions toujours nourris par ce mythe du retour. Et donc, pour les parents, c'était rendez-vous invisible, ne faites pas de bruit, et vous n'êtes pas chez vous, nous ne sommes pas chez nous, nous allons rentrer chez nous. Tandis que les nouvelles générations aujourd'hui sont clairement chez elles. Et ils affirment haut et fort, tout en revendiquant aussi leur appartenance marocaine, leur racine, de celle de leurs grands-parents, celle de leurs parents. Et elles portent aujourd'hui, dans un nouveau mouvement qui est le mouvement décolonial, aussi c'est une autre attitude et une autre façon de lire l'histoire, en déconstruisant ce qui a été dit sur nous. Et nous n'avons pas été dans cette démarche-là. Nous avons été plutôt dans le même moule, je dirais, que nos parents, même si, bien sûr, nous avons poussé les murs.
Mmh. Alors, j'aimerais revenir à cette question de la prise de parole et de la prise de pouvoir sur le récit collectif. On entend beaucoup parler dans tous les pays d'accueil d'immigration, que ce soit la France, la Belgique, et puis la Hollande, plus tard l'Espagne ou l'Italie. La question de transfuge de classe, parce que les parents, vous le disiez, sont partis dans une immigration de travail. L'objectif était de travailler et d'avoir une meilleure vie pour eux et leurs enfants. La deuxième génération est allée à l'école, a le pouvoir de raconter, et il y a parfois ce sentiment un peu, pas de trahison vis-à-vis des siens, c'est peut-être un mot trop fort, mais en tous les cas, l'idée qu'on ait un transfuge de classe. Est-ce que c'est un sentiment qui a pu vous habiter à un moment ou à un autre de votre parcours, ainsi que celui de certains des auteurs qui ont participé à cet ouvrage ?
Moi, je pense que c'est une question qui peut se poser globalement, c'est-à-dire pas que dans la culture marocaine ou... À l'époque, le travail, le vrai travail, c'est le travail qui faisait transpirer. C'est-à-dire qu'un ouvrier ou un agriculteur, c'est un gars qui travaille la terre, et donc lui, il sait ce que c'est que le travail. Un intellectuel, ça n'a jamais été considéré comme un travailleur. Donc c'est fait pour les gens qui ont étudié, pour les faibles physiquement. Mais c'est des choses qui étaient très prépondérantes chez nous, dans notre communauté. Ça veut dire que tu te lèves à 5 heures du matin pour aller bosser, faut que tu transpires pour qu'à la fin du mois, tu aies ton salaire. Au moins, il est mérité. Si tu transpires pas, il n'est pas mérité. Et donc, effectivement, la génération de nos parents, ils avaient cette vision-là, parce que la plupart venaient, ils sont paysans, fils de paysans, la plupart étaient analphabètes, donc ils n'avaient pas été à l'école, donc ils n'ont pas eu l'occasion de s'asseoir sur des bancs d'école et de philosopher, comme on peut le faire nous aujourd'hui, c'est-à-dire de penser plein de choses. Non, eux, ils allaient à l'essentiel, c'était terre à terre. Et donc, effectivement, c'est une question très intéressante, mais qu'elle ne se pose pas uniquement pour la génération de nos parents, mais vraiment... C'est une question globale par rapport au métier manuel et intellectuel. Comment on l'appréhende, comment ça se joue dans la vie de tous les jours, et surtout comment on le perçoit les personnes d'une part et d'autre, c'est-à-dire qu'ils soient intellectuels ou manuels.
Alors, il y a le fait de s'approprier le pouvoir des mots, et puis il y a le fait aussi de répondre aux injonctions à l'intégration, voire à l'assimilation, qui va encore plus loin. Et je pense notamment à ce texte de Mohamed Ben Sirir, Mohamed Rayan Ben Sirir, qui a un parcours intéressant, parce que je regarde un peu sa biographie. Il a quitté l'école avant d'y revenir, et il fait un doctorat aujourd'hui sur les questions liées à l'exclusion. Absolument. Et dans son texte, qui est un peu fantastique, c'est un jeune homme maroco-belge qui rentre chez lui. On comprend qu'il a réussi, qu'il est avocat, et il y a une espèce d'ombre fantastique qui vient s'emparer de lui, et au début il ne comprend pas ce qui lui arrive, et voilà ce qu'il appelle la bête, voilà ce qu'elle lui dit: ta réussite ne te rend pas supérieure au tien, énonça-t-elle d'une voix acérée. Les tiens, à qui donc faisait-elle allusion? Subitement, elle m'a projeté dans un tourbillon d'images, une cascade de souvenirs enfouis jaillissant de l'obscurité. Je revis les rues grises de mon enfance, ce quartier où l'espoir s'était étiolé depuis longtemps. Les mains éreintées de mon père me revinrent en mémoire, tout comme le visage exténué de ma mère. Leur labeur avait pavé la voie de ma réussite. Et puis plus loin, quand cette bête le prend à bras-le-corps et puis vraiment le force à remonter les souvenirs vers ses origines et vers l'origine de ses parents, voilà ce qu'il écrit: une vague de colère me submergea. Non, ce n'est pas possible, je suis belge, m'écriai-je avec une fureur déchaînée, tentant désespérément de me convaincre. J'ai trouvé ce texte très intéressant parce que c'est comme si, à travers ces textes que vous avez coordonnés, il y avait une forme finalement d'essayer de retrouver l'équilibre entre le fait de fuir une mémoire familiale, ou en tous les cas de devoir vivre avec un silence sur cette mémoire familiale, et puis l'injonction à s'intégrer, à réussir scolairement, à avoir un bon parcours social et économique. C'est ça aussi que vous avez voulu montrer, le fait que finalement l'épanouissement passe par retrouver un certain équilibre.
Oui, absolument. Et pour en revenir aussi à la notion de transfuge de classe, en ce qui concerne beaucoup de personnes, elles ne le vivent pas comme telles, elles ne le vivent pas elles-mêmes comme un transfuge de classe, parce que le transfuge de classe, ça porte à dire aussi qu'on trahit l'une ou l'autre des parties. Et le transfuge, il est plutôt dans le regard que l'on porte sur les personnes racisées. En l'occurrence, c'est de vous dire que vous n'êtes jamais finalement à la bonne place et de devoir toujours prouver plus, que l'on soit dans le monde politique, comme je l'ai été pendant 20 ans, que l'on soit dans le monde culturel, que l'on soit dans le monde académique. On sent ces résistances aussi. Et donc, c'était pour nous aussi ça, l'intérêt d'écrire ce livre collectif, pour justement montrer, parce que lorsque vous lisez ce livre et que vous voyez qu'il y a un fil rouge, ou même des fils rouges avec des ressemblances, même si, je l'ai dit tout à l'heure, les textes sont éminemment diversifiés, il y a toujours ce fil rouge où l'on retrouve des injonctions, où l'on retrouve du désir de transmission, et donc il y a un fond commun, et je pense que ce fond commun qui fait, je ne vais pas dire l'universalité, ce serait trop fort, mais ce socle commun, je pense que dans nos trajectoires migratoires, il y a ce socle. Et puis sur ce socle viennent se superposer des étages qui, eux, varient en fonction de l'un et l'autre.
En fait, ces textes sont tous très sensibles. Et en tant que lectrice, moi, ce que j'y ai senti, c'est quel que soit l'état de départ quand on est enfant de l'immigration, ils parlent tous de cette quête d'apaisement, d'arriver
absolument
à trouver l'endroit juste où l'on peut se sentir à l'aise avec ses identités sans avoir besoin de se justifier et sans avoir le sentiment d'avoir oublié qui que ce soit ou quoi que ce soit. Alors, j'aimerais vous poser une question. On a parlé du silence sur cette mémoire de l'immigration, à la fois par les parents et par les pays d'accueil, de l'absence de transmission, et puis du désarroi identitaire dans lequel certains jeunes ont pu être plongés parce qu'ils se sentent refusés par les uns, pas entièrement non plus reconnus, parce que quand ils viennent au Maroc, on va parler tout à l'heure aussi du changement de perception par le Maroc de cette communauté. On les appelle les maghriens, les vacanciers. Donc, il y a une forme de désarroi identitaire. Quel est le coût? Quel a été le coût de cette absence de parole et de cette absence de récit, j'imagine que ce livre vient notamment combler. Je vous pose la question, Sarit Benali, parce que je le disais tout à l'heure, vous avez écrit une pièce de théâtre sur, qui s'appelle Guantanamo, sur la radicalisation de ces jeunes. La Belgique a été malheureusement un moment au devant de l'actualité parce que des attentats sont partis de là-bas, ont eu lieu là-bas. Donc, est-ce que c'était aussi un des coûts de cette absence de parole et d'histoire apaisée?
Je pense pas que c'est lié Par rapport à la radicalité, effectivement, c'est une question, je pense, principalement de méconnaissance de l'autre, et d'ignorance et de peur de l'autre. Et effectivement, c'est à travers les écrits, à travers des pièces de théâtre, qu'on peut s'intéresser à la culture en général, quelle qu'elle soit, qui fait qu'on a une ouverture à l'autre. Et donc, la pièce de théâtre Guantanamo raconte l'histoire en fait, de jeunes qui sont nés, qui ont grandi en Belgique, la génération actuelle, parce que c'est arrivé il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Et comment ça se fait que ces jeunes qui sont nés, qui ont grandi en Belgique avec la culture belge, ne se sentent pas chez eux en Belgique et ont besoin, pour certains, de voyager, ont besoin de partir pour dire, voilà, on est différent de vous. Et effectivement, je pense que... Parce que moi, j'ai tendance à dire, par exemple, que... J'aime pas le mot intégration, on en parlait parce qu'ils sont nés là, donc ils n'ont pas à s'intégrer. Mais on parle souvent de l'échec de l'intégration, mais moi je dis souvent si on accepte le mot intégration, alors on devrait dire c'est l'échec de la politique d'intégration. C'est-à-dire que ce qui a été mis en place, on n'a pas, en fait, la politique n'a pas prévu que ces gens restent là. Et donc ils n'ont pas prévu qu'ils allaient se marier, ils n'ont pas prévu qu'ils allaient avoir des enfants, que ces enfants allaient s'installer, allaient étudier, donc il n'y a rien qui a été prévu. Moi, il me semble, c'est ma vision des choses. Mmh. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On met des pansements, en fait. C'est-à-dire que voilà, ils sont là, ils vont rester, maintenant on va mettre des pansements, on va leur construire un centre, on va leur faire ceci. Et donc, c'est des strates qui viennent se superposer, mais en soi... Les fondations ne sont pas solides parce que c'est pas quelque chose qui a été pensé dès le départ. Et c'est ça qui a manqué, je pense, à ces jeunes. Et surtout quand tu es issu d'un quartier populaire, parce que chez nous à Bruxelles, il y a des quartiers qui sont quasiment, c'est un mot fort, mais enclavés, c'est-à-dire qu'ils vivent entre eux. Et moi qui ai travaillé beaucoup dans le social, dans le socioculturel, en fait, il y a des jeunes qui sortent quasiment jamais de leur quartier. C'est-à-dire qu'ils côtoient que des personnes qui leur ressemblent. Ils vont à l'école de leur quartier, ils ont des activités extrascolaires, mais qui se passent dans leur quartier. Et quand, du jour au lendemain, ils doivent aller dans une autre ville, même à 10 km, ben ils sont complètement perdus. Parce qu'ils ont en face d'eux des personnes qui n'ont pas l'habitude de côtoyer, avec d'autres codes. Et effectivement, c'est ça le problème. Je pense qu'il faut désenclaver ces quartiers et permettre tant à ces jeunes d'aller vers un ailleurs... Et tant à ces personnes qui sont autour de venir vers ce quartier et de voir la réalité dans laquelle ces jeunes vivent.
Donc de permettre des rencontres, les rencontres des territoires, les rencontres des identités, ouais. et aussi des imaginaires. Mmh. Alors on parle de l'ancrage de ces troisième, quatrième génération dans les pays d'accueil, mais il y a aussi, est-ce qu'il y a aujourd'hui aussi un mouvement de retour vers les pays d'origine? Et c'est une des autrices, j'ai beaucoup aimé le titre de son texte, ça s'appelle Le fil de soie, mais soie, S-O-I. Oui. J'ai trouvé le titre très joli, c'est Soie de fil. Et voici ce qu'elle écrit à un moment dans son texte, elle dit, après quatre générations, les enfants des ressortissants marocains se sont installés, même si pour certains, le retour sur la terre de leurs aïeux se profile. Est-ce que c'est un mouvement que vous observez, ce désir de revenir peut-être vers la terre des parents?
Oui, je pense que ce désir, il est bel et bien là. Il y a d'ailleurs une autre nouvelle qui est celle de Faten Wahbé, qui raconte l'histoire d'un couple qui revient s'installer au Maroc, mais qui se retrouve aussi face à un univers méconnu. Et donc, il faut réapprendre les codes, il faut apprendre à vivre dans un pays dans lequel on n'a pas vécu, dans lequel parfois la langue elle est un peu tatillonne. Et oui, aujourd'hui, je pense que l'on est aussi dans un moment d'incertitude globale et mondiale qui est déstabilisant pour tout le monde. On ne va pas s'en cacher, il y a des mouvements d'extrême droite qui sont, même j'allais dire latents, mais non, ils ne sont pas latents, ils sont vraiment totalement ouverts aujourd'hui. Il y a une parole décomplexée, par rapport au racisme,
par rapport à l'islamophobie.
À l'islamophobie. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ait un débat sur le foulard, que l'on ait un débat sur... Bref.
La Belgique n'est pas épargnée par ça?
La Belgique n'est pas épargnée. Peut-être dans une moindre mesure que celle de la France, France, mais aujourd'hui en Belgique également, et nous le vivons pour le moment. Nous avons des partis de droite qui tous les jours vont revenir avec faisons attention, les chômeurs marocains partent au Maroc, nous allons contrôler, ils ont des maisons au Maroc, et tout cela participe à une ambiance délétère et participe à une atmosphère malsaine de vivre ensemble. Je n'aime pas trop ce terme non plus de vivre ensemble, parce qu'on ne vit pas ensemble, on fait des choses ensemble. Et donc, tout cela participe, et c'est le politique qui alimente ce climat, qui vient finalement mettre dos à dos des personnes qui ne demandent qu'une chose, c'est de vivre leur vie dans la sérénité. Je ne vais même pas dire en tentant, non, en conjuguant leurs différences, leurs différentes cultures en présence. Quant au pays, parce que vous avez évoqué les pays d'accueil, aujourd'hui, nous étions dans des pays d'accueil, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que les enfants de 3e et 4e génération sont dans des pays d'accueil. Ils sont dans leur pays, et c'est cela aussi que les politiques doivent comprendre.
Oui, j'aimerais juste compléter ce que vient de dire Fatiha. C'est effectivement, le retour se fait pour de plus en plus de personnes, parce que le Maroc d'aujourd'hui n'est pas le Maroc d'il y a 40 ans non plus. Il y a eu, incroyable ce qui se passe au Maroc. On le sent au niveau des énergies, au niveau de plein de choses ici, au niveau de l'infrastructure, au niveau des droits, au niveau... Et donc, effectivement, ceux qui ont déjà vécu en Belgique pendant X années ou ailleurs, et puis ils se disent, tiens, pourquoi pas essayer aussi mon pays d'origine, puisque la disparité entre les deux pays n'est plus la même qu'il y a 40 ou 50 ans, quand nos parents ont dû quitter ce pays pour aller vers un ailleurs plus prospère.
Alors justement, vous faites le lien avec la question suivante que j'allais vous poser, c'est que deuxième, troisième, quatrième génération, il y a une envie de se réapproprier aussi le Maroc autrement, parce qu'ils ne le connaissaient que par le biais des souvenirs familiaux, les souvenirs de vacances, mais là on sent qu'il y a un intérêt pour connaître la culture. On le voit par exemple aussi à travers la musique, des jeunes qui font de la musique là-bas, du rap, etc., mais qui intègrent aujourd'hui de la musique amazigh, qui font de la fusion, et on a le sentiment qu'il y a une volonté de se réapproprier et d'être fier de ses racines, et que le Maroc n'est plus enfermé que dans un lien familial lointain. À quoi répond aussi ce besoin, en fait ? Est-ce que ça répond aussi à un désir tout simplement d'ancrage par rapport à ses racines ?
Oui, moi je pense, je dirais oui. Ça répond à une quête aussi de soi, parce que c'est vrai que l'on parlait de la transmission des parents. Et les parents nous ont aussi laissés dans des territoires un peu restreints, puisqu'on retournait dans nos lieux d'origine, ou plutôt dans les lieux d'origine de nos parents. Tandis qu'aujourd'hui, les jeunes, quand ils viennent au Maroc, ils veulent le découvrir, et ils le traversent, je dirais, du nord au sud, mais pas en tant que touristes, en tant que Marocains qui ont envie de connaître les us et coutumes de chacune des régions, de connaître l'histoire. Et il y a vraiment cet appétit qui se manifeste aussi au travers de la littérature, au travers du cinéma, avec toujours cette synthèse du Maroc et du pays dans lequel on vit et qui est aussi devenu le nôtre. Et je trouve que ça donne de très très belles compositions.
Alors, vous évoquiez tout à l'heure, Saïd Benelli, le fait que le Maroc ait changé par rapport à l'époque où les parents l'ont quitté. Il y a un développement, effectivement, économique, des infrastructures, etc. Est-ce qu'il y a un changement aussi des représentations, et n'ayons pas peur des mots, disons même des stéréotypes, qui sont le fait pas seulement des pays où ils sont résidents aujourd'hui, où ils vivent, mais qui sont aussi le fait des Marocains sur cette communauté étrangère, qui vient de l'étranger, pardon, est-ce que vous pensez que ça a un peu évolué et qu'on a changé notre manière de voir, parce qu'aujourd'hui il y a des compétences marocaines à l'étranger, et on le voit d'ailleurs avec le CCME, il y a souvent aussi des rencontres pour mettre en valeur ces compétences, est-ce que ça contribue à déconstruire ces représentations?
Oui, tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Effectivement, on n'appréhende plus le Maroc tel qu'on l'appréhendait il y a 20 ans. On voit qu'il y a plein de choses qui nous arrivent, même nous en Belgique, dont on est fiers. On entend parler du Maroc sur plein de plans économiques, culturels. Et on se dit, waouh, le Maroc bouge, le Maroc, c'est the place to be, quoi. C'est vraiment, on se dit, ah ben, j'ai envie d'y être, j'ai envie de participer à ça, moi aussi.
Mais comment vous vous sentez vu, comment vous vous sentez regardé en tant que Marocain de l'étranger quand vous venez au Maroc? C'est-à-dire, est-ce qu'on a échappé à ces stéréotypes sur Zmagria qui viennent en vacances, souvent avec des belles voitures, qui font beaucoup de bruit, etc. Est-ce que vous pensez qu'on a aussi évolué là-dessus?
Bah, moi, quand j'étais jeune, on nous appelait, je suis de Tanger, hein, on disait Blashka. Donc pour Blashka. Nous, c'est Blashka, hommage à Blashka. Et quand on était en Belgique, c'est les Bougnoules sont arrivés. Donc voilà, c'était deux discours plus ou moins les mêmes, mais avec d'autres mots. Mais effectivement, les seuls qui viennent, qui font encore les riches au Maroc, c'est ceux qui n'ont rien compris au Maroc, je pense. Je pense que la richesse, elle est partout. Et que moi, quand je viens au Maroc, je suis marocain, c'est-à-dire que je vis avec des Marocains, je suis entièrement marocain, j'ai pas besoin de me sentir différent, parce qu'effectivement, même les Marocains d'ici ne me font pas sentir comme marocain. Ils discutent naturellement avec moi, on échange, ils me disent « Ah, tu viens d'où ?» Et la plupart de ceux avec qui je discute, ils me disent « Ah, si, je connais Bruxelles, j'y suis déjà allé, je suis déjà allé à Paris, j'ai déjà voyagé. » Donc même ça, ça a fait que les gens, beaucoup de gens du Maroc ont pu découvrir l'Europe, ils connaissent et puis ils reviennent travailler ici. Donc c'est des échanges qui se font naturellement. Et donc moi, je trouve qu'il y a de moins en moins cette impression d'être vu comme étranger ou comme différent.
Fatiha Saïdi, sur cette représentation qu'on a depuis le Maroc de cette communauté marocaine de l'étranger, est-ce que vous pensez que ça a évolué?
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, et entre autres par les institutions. Je pense que les institutions ont mis en place beaucoup de choses. Je pense que l'illustration parfaite en est déjà ce salon du livre. Ce n'est pas la première fois que le salon du livre met des Marocains de l'étranger à l'honneur. Et je crois que cela contribue à la connaissance des Marocains et Marocaines à l'étranger. Et notre livre aussi poursuit le même objectif. Et ce n'est pas pour rien que nous l'avons fait éditer par un éditeur en Belgique et par un éditeur au Maroc. C'est justement pour qu'il y ait cette connaissance de part et d'autre de la Méditerranée. Et je pense qu'on peut encore aller plus loin dans la reconnaissance du Marocain à l'étranger. Je trouve, pour ma part, mais c'est peut-être aussi ma fibre militante qui parle de cela, par exemple, sur la question de la réforme de la Moudouana, ben on n'a pas suffisamment été pris en compte. On n'a pas du tout été pris en compte. Alors qu'il y a quelques années, je me rappelle, lorsqu'il y a eu la première réforme en 2004, en Belgique en tout cas, on a été traversé par toute une série de débats, il y a eu le plan d'intégration au développement dont on a discuté, et cette fois-ci c'est passé vraiment pour nous comme s'il n'y avait rien, et on était obligé d'être dans une démarche d'aller chercher l'information pour savoir qu'est-ce qui va être changé, qu'est-ce qui va
bouger. Parce qu'il y a des problématiques qui sont spécifiques aux femmes marocaines
absolument,
vivant à
absolument, parce que nous restons marocaines à partir du moment, dès que nous foulons le sol marocain, nous sommes marocaines. Donc, nous sommes fortement impactées par ces lois, et donc nous devrions également ou être entendu ou à tout le moins être informé, et nous ne l'avons pas été, alors que nous avons des autorités consulaires, nous avons des ambassades. C'est très très facile de venir nous informer, et cette fois-ci ça n'a pas été le cas. Donc ça, c'est mon petit ma petite douleur, je dirais, sur cette question qui me tient énormément à cœur.
Merci de l'avoir partagé, cette question de la consultation de la communauté marocaine de l'étranger sur des questions qui touchent à l'avenir du Maroc, et donc évidemment à l'avenir aussi de ces femmes. On arrive malheureusement bientôt à la fin de ce podcast. Je sais que vous avez un emploi du temps très chargé dans le cadre des activités du CCME sur ce salon. Donc je vous remercie infiniment d'être venu nous parler de cet ouvrage. Je rappelle son titre, J'ai deux amours. On voit deux jolis papillons qui se font face. Sur les ailes de l'un, il y a le drapeau belge, et sur les ailes de l'autre, il y a le drapeau marocain. Il a été publié aux Nouvelles Éditions belges et à la Croisée des Chemins. Donc une contribution des deux rives. Merci beaucoup Saïd Benali d'avoir
merci
été là.
Merci à toi Hanan.
Merci aussi Fatiha Saïdi.
Merci beaucoup Hanan.
À bientôt.
À très bientôt.